notre séance. C'est le 31e atelier, hein, quand même. Je pense que vous vous rappelez évidemment des 30 précédents. J'espère d'ailleurs, parce qu'il y aura une interrogation écrite à la fin de cette séance, pour voir si vous vous souvenez bien. Ce 31e atelier, vous le savez, consacré à la peinture en Europe au XVIIe siècle, nous allons considérer 5 chefs-d'œuvre de la peinture européenne du XVIIe siècle. Des œuvres qui ne sont pas d'ailleurs forcément toujours très célèbres, hein, mais le but c'est aussi de s'intéresser à des choses qui sont peut-être moins connues. Habituellement, je mets toujours au départ de la première séance d'un atelier les règles qui sont les nôtres, et aujourd'hui j'ai oublié de les mettre. Et vous allez m'aider à les retrouver.
La tapisserie non plus, on ne les avait pas.
C'est bien possible, mais il n'y avait que des anciens pour la tapisserie. Là, il y a pas mal de nouveaux.
Ah, d'accord.
Ce qui est très bien d'ailleurs. Alors, on va rappeler les 5 règles d'or qui sont les nôtres et que vous devez graver sur le marbre à l'intérieur de vos lieux respectifs. La première chose, c'est que chacun peut prendre la parole, mais sans la monopoliser. La deuxième, c'est que nous suivons une certaine méthodologie. On essaiera de ne pas aller absolument dans tous les sens. La troisième, c'est que il est important dans cette séance de ne pas utiliser Internet. Je vous en dis deux autres.
Si vous connaissez
d'emblée des éléments, merci de ne pas tout de suite les livrer, parce que ce serait évidemment une manière un peu de couper l'herbe sous le pied du reste des participants. Et puis il y a enfin une dernière chose qui est que ces séances sont bien des séances scientifiques. Le but, c'est pas de dire j'aime pas, etc. On est là pour faire l'histoire de l'art, on n'est pas là pour faire le découpage. Donc voilà, il est bien question ici d'un travail scientifique. Alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est le problème de chacun, ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est une démarche scientifique par rapport aux œuvres que nous allons voir. Voilà donc le but et la manière que nous aurons de travailler ici. Alors, je vous propose pour cet acte 1 de considérer une première œuvre. J'ai voulu commencer par une œuvre qui n'est peut-être pas la plus compliquée de celles que nous verrons. Enfin, on va voir, parce qu'a priori, je ne sais pas du tout ce que vous connaissez ou pas, hein. On va donc commencer par une première œuvre qui est celle-là. Bien. Alors, cette première œuvre que nous voyons là, c'est un peu flou.
C'est ça. Il faut peut-être le temps de chauffer.
Ça. Peut-être. J'espère que c'est ça. On n'a pas encore un petit peu. Bien. Cette première œuvre que vous voyez là, je ne vais pas vous faire réfléchir sur sa matière, puisque cet atelier est consacré à la peinture en Europe au XVIIe siècle. Il s'agit donc bien d'une peinture. Sur ce plan-là, il n'y a rien à découvrir. On va peut-être s'intéresser directement au sujet. Quel est le sujet qui est figuré dans cette œuvre? Ça reste un peu flou quand même. Alors, à votre avis, quel est le thème, quel est le sujet qui est abordé dans la peinture que vous voyez?
C'est un pauvre genre miséricorde, un pauvre, quoi. Donc, on appellerait un SDF aujourd'hui.
Ok, donc on a... alors, on va essayer d'être un peu plus précis. On a au premier plan, assis, un personnage, un homme, effectivement. Hein, vous savez que... Il faut être précis, on est scientifique, hein, donc les choses évidentes, il faut les, dire.
On toujours un homme, une femme.
Eh voilà, il faut dire tout. Je sors d'un atelier là, que j'ai fait juste avant, où les gens fonçaient vers le sujet, puis se bourraient, parce que les gens, ils n'avaient pas commencé par le début. Donc on a, au premier plan, un homme qui est assis. Donc vous dites que c'est un pauvre...
Un
lépreux, peut-être. Un homme à demi dévêtu, ok. Donc un personnage pauvre.
Okay. Il semble souffrant.
Qui semble souffrant, ok. Quelqu'un a parlé d'un lépreux, peut-être.
Ok. Ben, c'est vrai qu'il a des mains, peut-être un peu.
On a l'impression qu'il a. Les poings fermés. Enfin, ce qu'on en voit, ce que décidément, c'est très fou.
Les pieds nus, donc.
Les pieds nus.
Apparemment, il a voulu regarder au niveau des yeux.
Peut-être des poux dans la tête.
Ah, il a peut-être des poux dans la tête, c'est possible. On croit les sentir, presque. Bien, donc au premier plan, effectivement, on a un personnage qui a l'air d'être un pauvre homme, à moitié dévêtus, peut-être malades, peut-être lépreux, en tout cas dans une forme physique assez moyenne. Ok. Et puis
Il y a une femme. Une femme qui prend soin de lui.
Donc on a une femme qui prend soin de lui. Quels sont les éléments qui vous permettent d'ailleurs de voir qu'il s'agit d'une femme qui prend soin d'un pauvre homme?
Elle
est penchée sur lui.
Avec bienveillance.
Elle est bienveillante, non?
Elle a sa lumière.
On ne sait pas si c'est une femme.
Si.
Oui, les vêtements, les supposés que c'est plutôt une femme. Donc on a une femme qui vient s'occuper de ce vieillard décharné et malade, et qui, son attitude semblant bienveillante, souhaite s'occuper de lui.
Dans un endroit sombre.
On est dans un endroit sombre, elle s'éclaire à la bougie.
Ça va être un cachot ou une prison.
Ah, peut-être un cachot ou une prison.
Possible. Enfin, un prisonnier tout nu.
Les prisonniers, je ne suis pas sûr qu'on les vêtisse forcément toujours. Mais
tout nu, c'est vrai, il y a un pain.
Donc, on est peut-être, en tout cas, on est dans un contexte sombre. Peut-être une prison, peut-être un cachot. Peut-être s'agit-il d'un prisonnier. Donc, ce serait une femme, peut-être, qui vient visiter un prisonnier.
Moi, j'en suis pas certaine, parce qu'on ne voit pas de chaîne aux pieds.
Ah oui, il n'y a pas de chaîne aux pieds.
Non.
Donc, ce serait un prisonnier un peu libre.
Ah, oui. Non, ça pourrait être dans un hôpital ou un hospice.
Donc l'idée du prisonnier n'est pas tout à fait certaine.
Non. C'est un pauvre air.
Un pauvre air.
Ça, c'est sûr.
Alors, je résume. Hein. On a là une femme qui vient porter secours à un pauvre vieillard. Ok. Peut-être dans une prison, peut-être pas, c'est pas évident. C'est donc une sorte de scène de genre que vous avez ici. Vous savez ce que c'est qu'une scène de genre? Une scène de genre, c'est la représentation d'une scène, entre guillemets, la vie quotidienne. Alors, on ne voit pas ça tous les jours, mais quand même, on le voit un peu, quand même. Hein. Et peut-être que au XVIIe siècle aussi, puisqu'il s'agit de travailler sur les peintures européennes du XVIIe siècle. Donc, il s'agirait là de représenter une scène de la vie quotidienne, entre guillemets.
Ça pourrait être l'évocation d'une scène biblique, mais je
ne
sais pas.
Une scène biblique?
Ah, ça pourrait effectivement être l'évocation d'une scène biblique. Après tout, la peinture ancienne... C'est souvent, en effet, derrière un sujet, un autre qui apparaît. Alors, si c'était l'évocation d'une sémique, ce serait quoi? Ah.
Job.
C'est quoi l'histoire de Job?
Il est sur son...
Il
passe une mauvaise passe.
Il a tout perdu.
Il vit sur du fumier. Et puis il y a la remontada après.
Ok. Mais là, alors, qu'est-ce qui se passe, là? Si c'est Job.
Il n'est pas au milieu de sa forme.
Non.
C'est peut-être une servante
qui lui amène quelque chose.
Non, ou une sainte.
Il y a une sainte qui vient quitter Job. C'était une sainte qui ne serait pas Job, alors, dans ces cas-là. Donc, c'était une sainte, la représentation d'une sainte.
Qui visite les pauvres,
les malades.
Ou ça peut être une allégorie, la miséricorde.
Ou une allégorie.
Elle n'a rien dans la main, elle ne lui offre rien.
Elle lui parle.
Elle ne touche pas. Hein.
Ah, c'est peut-être un secours oral, c'est déjà beaucoup.
Elle ne touche pas. Elle lui montre la voie avec sa main.
Donc, ce que vous me dites là, c'est que derrière ce qui pourrait sembler être une scène de genre, il y a peut-être quelque chose qui va plus loin, une peinture d'histoire, c'est-à-dire une œuvre qui dit des choses. Soit c'est une scène tirée de l'Ancien Testament, vous avez parlé de Job, sans dire de quelle partie de l'histoire de Job il pourrait s'agir. Parce que Job, si c'est Job à droite, il n'est pas tout seul. Donc, c'est qui cette femme devant lui? Bon. Vous avez parlé. Pardon.
Elle a l'air, comme le tableau est construit, elle a l'air d'une géante
à côté, mmh.
À côté
de lui.
Il y a un raccourci. Il est bizarre.
Oui, ben, je crois que c'est surtout la manière dont elle est habillée qui donne cette impression, mais vous avez raison. Il y a un côté comme ça presque oppressant de sa part, hein, ou dominant en tout cas.
Elle a un costume qui n'est pas du tout féminin parce que. Il est coincé sous les bras, là.
Ouais.
Et en fait, c'est tout masqué.
C'était un précurseur de la violence.
On voit rien, quoi.
Oui. Alors, évidemment, ce genre de choses existait autrefois, notamment au XVIIe siècle. Il y a des robes dont les ceintures étaient placées très haut, et qui, comme vous dites, on retrouvera ça à l'époque impériale, hein, enfin, sous le Directoire notamment, hein, les fameuses merveilleuses étaient souvent habillées comme ça. Donc effectivement, c'est une robe un peu particulière, une manière de la porter un peu spéciale, hein, qui donne effectivement à cette figure féminine une place très grande, un peu de géant, qui a l'air de dominer un peu le personnage qu'il y a devant elle. Alors, vous avez évoqué, au-delà du fait qu'il pourrait s'agir d'une scène de l'Ancien Testament, et vous avez cité Job, vous avez dit aussi que ça pourrait être une sainte qui vient porter secours à quelqu'un. Alors, quelle sainte ? Là, je ne sais pas si j'ai entendu. Pardon ? Non, pas d'idée. Et vous avez évoqué aussi que ça pourrait être, troisième chose, hein, une allégorie. D'ailleurs, tout à fait au départ, quelqu'un a parlé de miséricorde, hein, tout à fait, tout à l'heure. Donc, vous savez qu'il y a les fameuses œuvres de miséricorde, hein, vous les connaissez, les œuvres de miséricorde, pour parler. Et donc, ça pourrait être, vous savez, donner à manger à ceux qui ont faim, enterrer ceux qui sont morts, visiter les prisonniers, etc. Ça pourrait donc être aussi une œuvre de miséricorde. Il y en a sept, ça pourrait être une d'entre elles. Bien. Alors voilà, par rapport à ce panel de possibilités, laquelle trouve grâce à vos yeux ? Scène biblique vous tenterait davantage ? Ouais.
Pardon ?
Miséricorde. Ouais.
Surtout qu'avec la bougie, qui éclaire, qui réchauffe, qui... Voilà, et on a l'impression comme elle est penchée, qu'elle protège cette personne, elle porte la lumière et la protection.
Donc on hésite entre une œuvre de miséricorde ou bien une scène biblique, et dans ces cas-là, on tombe sur notre Job.
Non.
À moins qu'il y ait d'autres possibilités.
Une scène de genre.
Et d'autres fois, simplement une scène de genre. Ouais.
Parce qu'il est vraiment mis dans l'ombre, on voit même pas on ne voit qu'une partie de son visage.
Oui.
Alors que le spectateur est attiré vers le personnage qui est en rouge.
Oui.
Toute la lumière vient vers là.
La
signification, il faut qu'on la trouve dans ce personnage en rouge.
C'est la miséricorde
ou quelque chose comme ça.
Ah, vous êtes donc plutôt pour la miséricorde aussi.
Ah oui.
Ok. Bien. Donc, soit une scène allégorique, une des œuvres de miséricorde, par exemple donner faim à ceux qui, donner à manger à ceux qui ont faim, soit une scène de l'Ancien Testament, une scène biblique, hein, puisque je vais pas proposer un vote dans l'Assemblée. Mais... Je vous dis la solution. Avant de vous donner la solution, cette œuvre. On sait qu'elle date du XVIIe siècle, parce que c'est le but de cette séance, de ces séances. Mais est-ce que vous avez l'idée d'une école ? Et si vous avez l'idée d'une école picturale, est-ce que vous avez même l'idée d'un artiste ?
Oui, Caravage.
Pardon ? Caravage ? Donc on serait où ?
La tour s'est inspirée du style de
l'école Caravage.
Oui,
le clair-obscur du Caravage,
mais ça pourrait être.
Alors, je sens qu'il y a deux courants. Hein. Il y a un courant Caravage et il y a un courant Georges de la Tour.
C'est pas opposé.
Alors, sauf que c'est pas quand même le même peintre, mais effectivement, l'un est l'élu de l'autre. Mais des ongles, ils ne sont d'ailleurs pas connus. Mais...
C'est à la façon de Caravage.
D'accord.
Oui, il jouait bien sur les lampes, sur les bougies.
Qui ça ?
De la tour.
De la tour.
Il y a eu un certain nombre de peintres différents qui ont travaillé beaucoup sur cette histoire de lumière, de transparence, et quelquefois la main devant la lumière est elle-même presque transparente. Il y a un temps et un groupe, quelques peintres. Je ne pourrais plus lire les noms.
Oui, non, mais vous avez raison. Et quel est d'ailleurs le but de proposer un clair-obscur réveillé par la lumière d'une bougie? C'est quoi le but pour un artiste au XVIIe siècle de faire ça?
Un peu un tour de force.
Un peu un tour de force, et un côté, effectivement, il y a un brio, hein, parce que faire un tableau tout noir éclairé par une bougie, c'est quand même moins simple qu'autre chose, oui.
Focaliser sur un...
Oui, mettre en valeur.
Mettre en valeur quelque chose. Il y a effectivement les deux côtés. Il y a un côté esthétique, le brio artistique, l'effet, hein. Évidemment, ça fait de l'effet, si vous voulez, hein. Mais il y a également l'idée de mettre en valeur quelque chose, et en particulier, quoi, c'est la flamme, elle peut évoquer quoi? Voilà, l'idée, effectivement, de la spiritualité. On est au XVIIe siècle, il faut se remettre un peu dans le bain. Donc, effectivement, l'idée de la flamme, c'est quelque chose qui serait l'idée de la spiritualité, de la lumière et tout ce que ça veut dire, hein, notamment spirituellement parlant. Bien, on regarde la solution. Ça vous va?
Alors, on a tout faux.
Voilà. Donc, vous aviez grosso modo trouvé, hein, c'est bel et bien Georges de La Tour qui est bel et bien un ébule du Caravage. Il n'a pas connu Caravage, hein. Mais Georges de La Tour est à placer dans la lignée de Caravage. Et vous aviez raison, il n'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup d'autres artistes en Europe à l'époque, peut-être qu'on en dira un mot plus tard, qui travaillent dans le sillage de Caravage. Georges de La Tour en est un en France, mais il n'est pas le seul, ni en France ni en Europe, hein. Quant au sujet, c'est bel et bien Job, donc bravo, hein, vous aviez trouvé, hein. Sauf que vous n'aviez pas trouvé quand même l'épisode. Eh oui, voilà, hein. C'est Job raillé par sa femme, hein, parce que vous connaissez l'histoire de Job?
Non.
Vous avez peut-être une petite idée. Allez-y.
C'était un homme de valeur, etc., qui s'est consacré à Dieu. Et puis, à un moment, il a perdu ses enfants, et il a tout perdu, quoi, sans jouer, d'ailleurs. Et donc, il a fini sur un tas de fumier. Sa femme l'a quitté. Et puis, il y a eu cette remontée qui lui a permis que le Seigneur est venu à son secours.
C'est ça. Vous avez bien résumé.
C'est,
hein,
l'idée de Dieu qui voulait l'éprouver.
Voilà. Oui. C'est ça.
Parce qu'au début, c'était la merveille, et puis est-ce que ça peut continuer avec tous les ennuis qu'il
va lui envoyer ? C'est ça. C'est-à-dire que Job est effectivement quelqu'un qui a tout pour lui, hein. Oui. Il est riche, il a des troupeaux, il a des terres, il a une famille, il a des domestiques, il a une belle maison. Tout va bien pour lui, c'est super. Tout est parfait. Mais il croit en Dieu. Bon. Et Dieu va, pour éprouver Job, essayer de le faire tomber au plus bas possible. Donc Job va petit à petit tout perdre, sa famille, quasiment, ses amis, ses troupeaux, ses terres, sa santé, enfin, bref, c'est la catastrophe totale. Et il finit évidemment sur un tas de fumier, malade, hein, il a des pustules, il a même, puisqu'il a pris les moyens de rien faire, hein, il a même trouvé une espèce de bout de tesson par terre, c'est avec ce tesson qui se gratte ses pustules pour les ouvrir et enlever le pus qui est à l'intérieur. Pas très ragoûtant, mais je ne fais que raconter la Bible. Hein, voilà. Donc, il est tombé vraiment au plus bas. Et jusqu'au plus bas, il ne cesse de croire en Dieu, parce que l'idée était aussi, Dieu éprouvant ainsi Job, que Satan mette son grain de sel maintenant. Satan voulait, lui aussi, essayer de tout faire pour que Job abjure Dieu. Et régulièrement, Satan faisait en sorte que la femme de Job aille se moquer de lui, ou des anciens amis de Job venaient le voir en lui disant « Qu'est-ce que tu fous sur ton tas de fumier, c'est lamentable, etc. Tu devrais abjurer Dieu, vu dans quel état il t'a mis. » Et jamais Job est tombé dans le piège, si j'ose dire. Ce qui fait qu'effectivement, après toutes ces épreuves, il y a eu, comme vous dites tout à l'heure, remontada, il est redevenu riche, etc. Hein. Il a même une vie très longue, et il est mort à 140 ans, je crois. Voilà. Donc Job, c'est vraiment le type même, si vous voulez, au XVIIe siècle, de la foi ferme et sûre. C'est-à-dire Job, c'est bon, celui qui, même dans les pires ennuis, jamais ne renonce à sa foi. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important au XVIIe siècle de montrer ça?
C'était pas au moment des guerres de religion?
Oui, mais encore. Alors, c'est même un petit peu après la guerre de religion. Voilà, mais on va dire que les guerres de religion, après tout, elles vont effectivement perdurer d'une certaine manière très tard. Vous avez raison. Et justement, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle qui fait que ce genre de peinture est vraiment importante en France?
Il va y avoir le catholicisme. L'Église catholique cherche à reprendre la main, si je puis dire, par tout un tas de dispositifs qui doivent stimuler la foi.
Voilà, absolument. C'est effectivement l'époque de la contre-réforme. C'est-à-dire que, vous venez de le dire, l'Église catholique essaie, par tous les moyens, de montrer, par des exemples remarquables, hein, de montrer l'exemplarité d'un certain nombre de figures. En plus, ça tombe bien, parce que Job est une figure de la Bible, donc une figure qui, quelque part, peut être lue par tout le monde. Hein. C'est une figure qui peut être lue par les catholiques, mais aussi par les protestants. Hein. Parce qu'évidemment, la Bible, l'Ancien Testament, pour les protestants, a une importance particulière. Si je parle des Juifs. Et donc, oui, aussi, mais on va dire que les combats religieux de l'époque, c'est vraiment la réforme et la contre-réforme. Hein. Et une figure comme ça, une peinture comme ça, là, pouvait jouer, mais habilement, peut-être à part un tour, jouer sur les deux tableaux, d'une certaine manière. Parce que ce genre de figure est effectivement extrêmement important. Bien. Alors, j'avais envie, maintenant qu'on a regardé d'un peu plus près ce tableau, qu'on regarde d'un petit peu plus près aussi d'autres œuvres de Georges de Latour pour voir comment cette œuvre peut se situer dans son œuvre et résonner avec elle. D'autant que vous avez assez bien dit, hein, cette œuvre, vous avez hésité, et ça c'était très intéressant et très juste en fait, pour y voir soit un aimant tiré de l'Ancien ou du Nouveau Testament, hein, vous avez parlé d'une sainte éventuellement, ou d'une sainte Ancien Testament, c'est une sainte Ancien Testament, vous avez dit aussi que ça pouvait être une sorte d'allégorie, les œuvres de miséricorde, mais vous avez dit également que ça pouvait être une scène de genre. Et évidemment, je crois qu'il est intéressant de voir comment ce genre de réflexion, on peut l'avoir pour d'autres œuvres de Georges de Latour. Alors on va regarder une vingtaine d'œuvres de lui, essayer de voir qu'est-ce qu'il nous dit dans cette œuvre et qu'est-ce qu'on peut nous-mêmes en tirer aujourd'hui. Je les ai mis un petit peu d'ailleurs dans le désordre. On ramassera les copies, on les remettra évidemment dans l'ordre normal. Alors je vous montre une première œuvre de lui que voilà. Qu'est-ce que vous y voyez là?
Des joueurs.
Oui, des joueurs.
Des soldats.
Des soldats. Donc on est dans quel contexte là?
Un cabaret.
Un cabaret.
Ouais. Une salle de garde.
Une salle de garde, un cabaret. Pardon.
Ce sont les soldats dans le martyr du Christ, non, qui jouent la tunique.
Qu'est-ce qui vous le fait dire?
Ils jouent au
dé. Aider. Parce qu'il n'y a que au moment du martyr du Christ que les soldats ont joué au dé.
Oui.
Ben je ne jouerai plus au dé alors.
Mais oui.
Ah,
ils ont joué la tunique.
Il y a quand même une femme à droite.
Les visages sont un peu féminins. De toute façon, il y a une femme.
Et un fumeur.
Il y a effectivement un fumeur. Donc, des gens jouent au dé, ça peut être effectivement une allusion à ce que vous disiez, hein, c'est-à-dire aux soldats qui jouent au dé pour se partager les vêtements du Christ. Alors, normalement, c'était à côté du calvaire. Hein. Là, on est dans un corps de garde. Bon, mais enfin, ça peut être une sorte de licence artistique. Hein, voilà. Il y a effectivement un fumeur, il y a effectivement une femme. Ce genre d'iconographie qui, j'allais dire, joue un peu sur deux tableaux, hein. Parce que ça peut être effectivement une scène de gens, une scène de taverne, hein, des soldats qui jouent avec une prostituée ici, un fumeur là, mais qui est également une sorte d'allusion éventuelle, hein, à une scène du Nouveau Testament, le moment où les soldats jouent au dé les vêtements du Christ. Ça vous fait penser à quoi d'autre? À quels autres types d'œuvres dans la peinture européenne? Tout ça?
Des tableaux qui illustrent les vices.
Oui.
Enfin, ce qui est normalement préjugé, le jeu, la boisson.
Oui. Et est-ce que Georges de Latour, puisqu'il s'agit bien de lui, est le seul à cette période à faire ce genre de choses? Il y a effectivement des joueurs de cartes.
C'est lui, le tricheur.
C'est lui. Oui, absolument. Donc il n'y a que lui qui fait ça. Georges de Latour, c'est le seul peintre de l'Europe du XVIIe siècle a montré ce genre de choses.
Quand on a fait les Flamands, il y avait qui faisaient ça.
Il semble effectivement qu'il y a beaucoup d'artistes flamands qui, à la même époque, font des choses équivalentes. Oui. Donc il n'y a que en Flandre et avec Georges de la Tour qu'on voit ce genre de choses.
C'est peut-être partout.
C'est peut-être partout. Vous connaissez d'autres artistes qui ont pu, à la même époque, faire des choses un peu équivalentes ?
Il n'y a pas des Espagnols.
Des Espagnols ? Vous pensez à quelqu'un ?
Ah non, je ne sais pas.
Non ? Des Italiens, non ?
Bah, le Caravage fait des trucs comme ça aussi. Oui, mais bon, il est un peu avant.
On verra peut-être des choses dans les séances qui viennent. En tout cas, on a là donc une scène de genre qui montre des soldats en train de jouer dans un corps de garde, peut-être. C'est peut-être une allusion à, encore une fois, un grand moment du Nouveau Testament. Et on a quelque chose qui résonne avec la peinture européenne d'autres secteurs. Je pense au territoire, enfin, ce que vous avez dit, au territoire du Nord, la peinture flamande, par exemple, on trouvait ce genre de choses. Ok, on continue.
Oh, sur le précédent.
Oui.
Il y avait un caractère un peu bizarre quand même. Ça fait un peu Playmobil comme. Avec ses grandes taches de marron, etc., brillantes, ça fait une ambiance assez particulière.
Les visages. Oui.
On ne voit pas la source de lumière.
Alors, effectivement, elle doit être là. Vous voyez là le pied du bougeoir et la flamme. Mais effectivement, c'est tout un calcul. L'idée est de la masquer quasiment pour des effets de clair-obscur. Bon, ça éclaire beaucoup le visage de la jeune femme qui est à droite. Et puis, effectivement, il y a un côté très métallique. Vous l'avez bien enlevé. La flamme joue sur le côté très métallique des armures, des personnages, des soldats. Ce qui donne évidemment une ambiance un peu particulière.
Hors du temps.
Alors ça. Vous voyez, il y a le même genre d'effet pour cacher la flamme. Alors ça, c'est quoi ?
Mais il rigole pas, lui.
La position de la main, c'est la même que la première.
Même position de la main que la première, celle-là.
Ce ne serait pas la même scène que la première.
Ah, donc ce sera la même scène, c'est à nouveau Job qui se fait danser par son épouse.
Non, ça va mieux, là, il est habillé.
Il est habillé, oui.
Il a un livre.
Bah, sur son tas de fumier, il faut bien qu'il se...
Qu'il se cultive.
Voilà, qu'il se cultive.
C'est un rêve, je crois.
Un rêve ?
Je crois que c'est pas le songe de nuit d'été.
Vous êtes shakespearien, ce soir. Oui,
j'ai
l'air
de c'est pas Saint-Germain.
Donc il y a un personnage qui dort, c'est ça ?
Oui.
Donc on quitte Job, c'est pas Job.
Non, non. Donc il est habillé.
C'est pas Job parce qu'il est habillé. Bon, Job n'a pas toujours été tout nu sur son fumier.
C'est un songe. C'est un rêve.
Donc un personnage dort. Oui. Et puis
c'est une vision.
Et puis il y a une femme à gauche, c'est ça ?
Enfin, une jeune fille.
Une jeune fille. Oui,
très jeune.
Enfant.
Fillette.
Le dormeur, il avait un bouquin sur les...
Oui, il y a un livre. Oui.
Tout le monde, il s'endormit sur son cou.
Donc, un dormeur, une dame devant lui, une jeune femme devant lui, une scène de genre.
Non.
C'est pas comme la précédente. Pardon ? Vous parliez de rêve ?
Oui, c'est un saint qui rêve et il a la Bible dans les mains.
Un saint qui rêve et qui a la Bible dans les mains. Il rêve à quoi ?
À Dieu. C'est un ange qui lui fait une révélation.
Ah, c'est un ange alors ? C'est pas une dame ?
Moi, je dirais que c'est un ange.
Ah, ça, ce serait donc un ange.
Oui, les ailes sont repliées.
Il ment.
Cool.
Excusez-moi.
On vous connaît. Donc, vous pensez plutôt à un saint et un ange. Mais c'est qui, si c'est ça?
Moi, j'ai pensé à Saint Jérôme.
Saint Jérôme, à cause de
du livre succès.
Ouais.
Bah,
ah, il y a souvent un crâne. Oui, enfin bon, là, ce qui fait de l'art.
Non, là, je donne mal en
gauche. Pas d'idée. Non. Allez, on passe au suivant.
C'est un livre, une épée.
Un personnage qui tient une lance. Et un livre.
C'est peut-être un.
Un portrait d'un.
Du commanditaire.
Un portrait de.
Du commanditaire.
Un portrait d'homme, quoi.
Voilà.
Ouais.
C'est ça, parce que c'est un homme.
Là, c'est bon. Donc, ce serait un portrait d'homme. Un homme tenant un livre et une lance. Et il tiendrait un livre et une lance pour quelle raison?
Un serment.
Un serment.
Pour défendre la foi,
pour défendre
la foi avec la Bible et l'arme.
Mais je ne sais pas si c'est chronologiquement.
Vous disiez quoi?
Saint-Ignace de Loyola.
Saint-Ignace de Loyola?
Oui.
C'est son visage qui me fait penser à lui.
C'est la, non, la, le côté je défends la foi.
Oui, puis Saint-Ignace de Loyola peut avoir un visage un peu comme ça.
La lance dans une main, la Bible dans l'autre.
Donc le portrait d'un personnage mystique,
voilà,
peut-être. Ça vous va, ça? Ça va à tout le monde?
Oui.
Super.
Mais on n'est plus dans la même technique du clair-obscur.
C'est un peu plus dur, c'est vrai. Mais vous savez, on a beaucoup enfermé Jean-Jacques Tour dans les scènes obscures, comme s'il n'avait fait que ça. Or, il n'a pas fait que ça. Et là, effectivement, vous avez une scène qui reste encore assez clair-obscur, hein, mais qui est moins...
Ouais.
Qu'il est moins effectivement que d'autres, vous avez raison.
On est toujours sur le glaçage comme.
Mais ça, c'est sa peinture. Voilà. C'est sa peinture, ça. C'est sa peinture à lui qui est toujours venue.
Oui, d'accord. Mais c'est une technique.
Oui, voilà, visiblement, cette veste est en cuir, d'où le fait qu'elle lui comme les.
Un éclairage postérieur, on ne sait pas d'où il vient.
Oui.
Parce qu'il est dans le dos.
Ok. Allez, on continue parce qu'il y en a quand même pas mal à voir. Hein.
Voilà, on va pas dire. On dirait une serpente.
On dirait un brasero.
Oui, qui fait manger.
Elle fait cuire.
Elle fait jus. Elle est éclairée par la lumière.
Elle va goûter.
J'espère que non pour elle.
Elle souffle.
Voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que vous voyez là? Des braises. Autrement dit, ce que vous avez là, c'est quoi?
Du cuivre.
Alors, je ne sais pas si c'est en cuivre.
Un brasero.
Oui, c'est, voilà, c'est un brasero. Je suis désolé, c'est flou. Genre, ouais. Bon, ouais. Enfin, comment?
Comme si elle touche, si elle les mange, elle va se brûler.
Voilà. Les gorilles, il ne faut pas trop manger les
tisons. Elle souffle dessus, on dit maintenant.
Oui, évidemment, elle souffle dessus.
Ah, elle souffle.
Et peut-être pour quelle raison?
Pour ranimer.
Pour attiser. Ouais.
Pour attiser.
Voilà, pour attiser le feu ou la chaleur qui sort du brasero. Alors là, qu'est-ce que vous y voyez?
Une scène de genre.
Une scène de genre. Donc là, on aurait simplement une scène de genre, rien derrière. Ok.
Ah, c'est les tricheurs.
Mais encore.
Mais encore. Ouais, un jeu de cartes.
Un
jeu de cartes. Ils sont en train de plumer le petit jeune qui est sur,
voilà,
qui est sur la droite.
Ok.
Pas.
Donc une scène de genre.
Oui.
Là aussi, c'est une peinture dure, vous remarquerez.
Oui, oui.
Donc une autre scène de genre, hein. Un peu comme la précédente. Bah, okay.
Ça pourrait être aussi pour illustrer la tricherie.
Ah, donc il y aurait une dimension allégorique derrière.
Oui. Hein.
Donc une dimension morale, pourrait-on dire. Ouais.
Oui.
Hein, donc c'est aussi quelque chose pour illustrer effectivement les travers humains. Ouais. Hein? Ok.
Il y a un verre.
Un chanteur avec une
ouais, un chanteur avec une vielle.
Le premier chanteur, il a fait un
essai. Sorte de chanteur de rue.
Une scène de genre.
Scène de genre, donc,
quelqu'un
ok.
Quelqu'un qui est dans la rue, qui chante, qui tourne.
Donc une scène de genre. Oui. Là aussi, une vue plutôt dure, on a. Oui.
Très bien. Ce sont des gants qui sont tirés, là.
Par terre, les rouges.
Non, c'est plutôt un chapeau.
Un chapeau
avec
un
chapeau. Une plume. Ah, à la, vous savez, à la Charles de Bergerac. Ah,
voilà.
Avec des sous. Oui, bah oui. Ok, donc une scène de genre lambda. Très bien.
Nous revoilà au clair-obscur.
Ah, revoilà le clair-obscur.
C'est la leçon de lecture. La leçon de lecture, oui.
Donc une scène de genre.
Non. Ça, le soir, la prière, lire la prière, on dirait qu'elle lit la prière, qu'elle a les mains.
Non, elle couvre la flamme.
Oui. Oh, bah, Il y a plus. Non, alors c'est quoi qu'elle a sous le ventre? Sa ceinture.
Vous voyez que là aussi, hein, c'est les mêmes ceintures très haut placées. Hein. Oui. Comme la femme de Job tout à l'heure.
Elle lit.
Elle lit.
Elle apprend la Bible. Oui, l'apprentissage de la lecture.
Donc c'est une scène d'apprentissage de la lecture. C'est deux genres.
Ah, ça peut être le Christ qui apprend, Jésus enfant qui apprend... Les tables, enfin les règles.
L'éducation du Christ, quoi. Oui. Mmh. Donc on aurait un peu, comme pour notre Job de tout à l'heure, un premier niveau qui serait une sorte de scène de genre, hein, la lecture, mais derrière, peut-être, l'évocation, comme nos joueurs du 2D, hein, l'évocation d'une scène de l'enfance du Christ.
Sa main droite fait quand même penser qu'elle prête serment ou je sais pas quoi.
Oui, ouais.
Le fait qu'elle est là.
Ou qu'elle prie, quoi.
Elle, donc pour eux, c'est pas un petit garçon, là. Vous non, dites non, elle prête serment.
Oui, je dis elle.
Donc pour vous, c'est une fille, alors.
Ah oui.
On partait sur l'enfant Jésus, mais.
Non, bah, il a des grands cheveux. Grands cheveux.
Oh, ça.
Puis comme elle lève la main.
17e, hein. C'est pas un critère.
Une pâleur anormale. C'est à cause de la lumière.
C'est à cause de la lumière.
La lumière.
Oui,
l'éclairé dans
le visage.
Je trouve que c'est très moderne.
Il n'y a pas beaucoup de décors derrière.
Donc une scène de lecture.
Le soir.
Une scène de lecture le soir, mais pour certains, ça va un peu plus loin et ça va vers une scène qui pourrait avoir une dimension religieuse.
Pour moi, elle fait une prière.
Ok.
Une vanité.
Oui,
elle a le crâne.
Donc, c'est la présentation de la vanité.
Non, c'est les tableaux qui s'appellent des vanités quand il y a un crâne dedans. Qui en fait montre que la vie n'est pas éternelle.
Il est de la vanité du monde.
Oui, vous disiez, maman, c'est pas Marie-Madeleine.
Ah, Marie-Madeleine. Donc ce serait plus la représentation de Marie-Madeleine que d'une vanité, en fait.
Bah, ça fait les deux.
Ça fait les deux.
Sur la table, je ne vois pas très bien ce qu'il y a.
Des livres empilés. Et puis cette lampe à huile qui brûle.
Sur la jeunesse qui s'enfuit. C'est une scène de genre. Des paysans qui mangent.
Donc simplement, là, une scène de genre. Des paysans qui mangent. Ok.
C'est
vraiment très fort.
C'est le genre
un
dentiste.
Un arracheur de dents.
Non,
ou il lui peigne
sa barbe.
Un coiffeur. Un barbier.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il tient la lumière et l'autre, on ne sait pas.
Il a rien, c'est derrière.
Quand vous dites qu'il n'a rien dans la main, vous parlez de qui là?
Le personnage de gauche.
Le jeune homme en rouge.
Alors, il y a le jeune homme en rouge, qu'est-ce qu'il fait? Comme quoi, il faut être très précis, autrement, on se comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur, le jeune homme en rouge?
Il tient une torche,
ok.
Il tient la main de la personne. Non, il tient que la main.
Il tient un chapeau.
Mais il est mort, non?
Donc il y aura un monsieur qui est mort et un autre qui vient pour le voir.
Il est mort.
Pour vérifier.
Non, parce que le monsieur en sombre, celui qui est couché,
il tient quelque chose dans quelle main?
Dans les deux mains.
C'est ça? Je suis désolé, c'est flou, je comprends plus.
Il a un livre dans la main droite, gauche. Non,
là, c'est ça dont vous parlez? Oui, ça a l'air plutôt d'être un papier, je crois. Parce que là, vous voyez sa ceinture. Lui aussi a une ceinture très haut placée. Hein. Voilà, ses deux bras. Et ses deux mains se rejoignent. Et il tient effectivement un papier. Alors ça, c'est quoi?
Il y a cette arche qui est au-dessus qui fait penser à...
C'est pas le halo de la
lumière?
Non, c'est un
toit architecturé.
Ah non,
parce que t'as une voûte et puis une partie droite.
Ce serait une voûte alors. Là aussi, vous voyez une ligne horizontale.
Une ligne horizontale, oui. Et puis la voûte, elle se poursuit par un trait vertical qui ferait penser à des colonnes et des pilastres.
Ah ouais.
Donc ça passerait sous une sorte de voûte.
Parce que c'est le mur qui est...
Ou alors une espèce de dessin sur le mur.
Ça peut être une fresque, oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une ouverture? C'est pas une ouverture, et moi j'ai l'impression de voir la mer.
La mer?
Blanc, légumes.
À quel endroit vous voyez la mer? Ah, là-haut? Là? Ah! Je suis pas très sûr de la mer, mais enfin, on est là pour discuter. Hein.
On dirait qu'il observe simplement cet homme, sans vraiment lui faire quelque chose. Il l'observe.
D'accord. Donc on a un jeune homme qui vient observer un peu cet homme, voir ce qui se passe. Certains disaient mais il a l'air mort, donc peut-être qu'il vient voir.
Il dort.
C'est bon, ça dort beaucoup chez Georges Latour.
Il a l'air avec son chapeau.
Ah oui, il balaie avec son chapeau pour voir s'il dort vraiment.
C'est le château du bonhomme.
C'est le château du
bonhomme.
Il l'a sur la
mort.
Ok.
Il va lui couvrir son chapeau. Il va lui couvrir le visage avec son chapeau.
Très bien.
Où il vient de le découvrir.
Et alors, ça vous... Donc, c'est cette scène que vous décrivez. Vous tentez d'écrire. Ce serait quoi? Scène de genre aussi? Toujours un pauvre air?
Un épisode du sang de quelqu'un?
Encore un songe alors?
Ou la mort d'un personnage?
Qu'on est supposé connaître. Ok, bon, on va passer à quelque chose de plus facile.
Il est connu celui-là.
Alors, c'est quoi ça?
Peut-être la Vierge.
Sainte Anne. Ok, et Sainte Élisabeth qui vient visiter. Donc c'est après la visitation, parce que quand elles se visitent l'une et l'autre, les enfants ne sont pas là.
Non, elles ne sont pas.
C'est Sainte Anne.
Ah, oui, Sainte Anne.
Donc ce serait Sainte Anne, la Vierge et l'enfant. Hein? Une nativité, quoi.
Oui.
Ok. Toujours même genre de vêtements. Hein?
Et la
qu'est-ce qui vous frappe dans ce tableau comme dans d'autres?
La bougie, on ne sait pas trop où elle est.
Oui,
C'est derrière la main.
Oui, mais d'accord, mais où?
Et la main aussi.
On voit la main là qui la tient.
Voilà.
Oh, ils ont l'habitude, eux. Qu'est-ce qui vous frappe si cette scène représente effectivement la nativité du Christ, non?
Non, il a choisi
de... non, pas du Christ.
De Saint Jean ou...
Ah, de Saint Jean. Donc en fait, ce ne serait pas la Vierge, là.
En rouge, je ne sais pas trop la couleur de la Vierge.
Elle est en rouge.
Il y a surtout qu'il y avait des costumes de l'époque.
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc c'est ça qui vous frappe, c'est-à-dire que...
Bah, si c'était... si ça voulait être la Vierge, je ne sais pas...
Mais tout est concentré sur l'enfant.
Tout est concentré sur l'enfant, c'est lui qui est éclairé, oui. Donc ce qui vous frappe, c'est que si c'est une scène type nativité, mais tout le monde n'est pas d'accord, hein, ce qui vous frappe, c'est qu'une scène aussi, j'allais dire saintement officielle, entre guillemets, soit représenté avec des habits de monsieur et madame tout le monde du 17e. C'est ça qui vous étonne. Non, ça ne vous étonne pas?
Non, ça c'est pas étonnant, mais par contre, il n'y a rien qui donne le côté religieux. Il n'y a rien qui rappelle la religion dans ce tableau. Souvent, quand on voit des tableaux religieux, on voit qu'il y a une auréole, il y a un truc, enfin, il y a quelque chose. Mais là, on n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est tout le monde, quoi.
Mais l'enfant
les rajoute. Bah, d'ailleurs, ce qu'on disait juste avant, c'est les vêtements qui sont ceux de monsieur tout le monde vont quand même dans ce sens. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'effectivement, il n'y a pas d'auréole, il n'y a aucun élément clairement religieux. C'est une femme avec un gosse et une autre qui arrive, quoi. Et les gens sont là la nuit avec leurs vêtements du 17e. Donc il y a effectivement une sorte de... C'est monsieur et madame tout le monde, hein, sauf qu'il n'y a pas de monsieur aussi, il y a un petit garçon. On peut l'imaginer, mais
il y a peut-être une volonté de rendre cette Vierge humaine aussi.
Voilà, donc une volonté, effectivement, de faire, si c'est la Vierge, de la rendre très humaine, c'est-à-dire très, très proche de nous, quoi. Donc, on ne la représente pas, effectivement, avec les habits qu'on voit souvent. Souvent, la Vierge, par exemple, au Moyen-Âge, est représentée comment? Là, on est près du Moyen-Âge.
En rouge, en tout cas.
Pardon? Pas rouge.
En rouge, en tout cas.
Elle est bleue. Et généralement, elle est bleue. Elle est bleue. Or là, pas du tout. Donc, effectivement... on est là, au XVIIe siècle, le Moyen-Âge, c'était il y a un siècle et demi, hein, et on présente ça avec des codes qui ne sont pas du tout ceux habituels, effectivement. Ce n'est pas du tout religieux, et c'est des vêtements de tout le monde. Et effectivement, c'est peut-être une manière, si c'est bien ça, hein, de nous rendre cette histoire très très proche.
Oui. Pas du tout. Curieux. C'est que la femme de gauche regarde la femme rouge, et la femme rouge ne regarde pas le bébé.
C'est vrai qu'il y a un regard un peu flottant, on dira.
Moi, par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, je trouve qu'il décrit beaucoup la vie de son époque. On a vu les mendiants, enfin, on a vu les deux pauvres personnes, on a vu celle-ci. Ben, je trouve qu'il peint un peu son emploi. La vie contemporaine de son époque.
Donc c'est vraiment un artiste qui, quel que soit le sujet qu'il traite, parce qu'on a vu des scènes de genre, enfin dans ce que vous avez dit, hein, on verra, on a vu des scènes de genre, vous savez, la petite souffleuse, je sais, on a vu des scènes qui manifestement sont tirées du Nouveau ou de l'Ancien Testament, hein, en tout cas vous en avez émis l'hypothèse, hein. Et puis on a vu des scènes plus allégoriques, dirons-nous, et à chaque fois, quel que soit le sujet, c'est avec... Enfin, le traitement, les personnages ont l'air d'être personnages contemporains de l'artiste. Hein, c'est comme si aujourd'hui on présentait la naissance du Christ, si c'est bien ça, je sais pas, sur un canapé dans la télé, quoi. Avec un jean et un t-shirt. C'est ça. Ok. Voilà.
Donc okay. C'était une nativité, mais pas forcément.
Ah ben on va voir.
Et la dame sur la gauche, c'est la servante de la dame,
donc c'est pas forcément une nativité, décidément.
Une nativité, mais pas celle du Christ.
Pardon ?
Pas celle du Christ.
Voilà, c'est une nativité, mais c'est une naissance, alors.
C'est une naissance, avec la servante.
Avec la servante qui vient voir le bébé nouveau-né.
Mais il y a quand même un certain mysticisme, parce qu'il y a quand même la lumière, il y a le bébé, puis il y a ce recueillement, quand même, on sent, enfin,
la naissance, justement,
dont on parle. Voilà, ce que vous notez, c'est qu'à la fois la qualité de la lumière et l'ambiance générale, hein, quelqu'un parlait tout à l'heure du côté un peu flottant du regard de la Vierge, comme si on regarde de la Vierge
que vous supposez.
Vous évoquez, voilà, bien supposé, ce que vous parlez de Vierge à droite, là, comme si elle pensait déjà à l'avenir de son fils.
Il y a un autre tableau, c'est l'adoration des bergers, donc on a un petit peu ce regard sur le...
Ouais. Du mal, d'ailleurs.
Ouais. En tout cas, je parle le pauvre gamin. Parce que...
Ah, il est longé. Il est emmailloté. Ça, c'est aussi à la mode du 17e, surtout dans les milieux ruraux. Bien. C'est une
altercation.
Une altercation.
Ouais. Entre musiciens.
Ouais.
Musiciens.
Évidemment, c'est une altercation entre musiciens. Donc, scène de genre.
Hein?
Scène de genre. Ok.
Saint-Jean-Baptiste.
Qu'est-ce qui vous fait reconnaître Saint-Jean-Baptiste ?
L'agneau
et la croix. Ok.
Et le dépouillement.
Et le vêtement, le dépouillement. Donc on aurait là la présentation Saint-Jean-Baptiste. Ok ?
Ah, merci.
Donc vous savez pas, c'est à nouveau une nativité un peu comme celle de tout à l'heure. Ce serait, on réduit un peu la même chose que ce qu'on vient de voir. Ouais.
C'est l'amour maternel.
L'amour maternel.
Qui veille sur son enfant.
Ouais. Oui, oui, effectivement, souvent c'est ça, oui.
Par rapport à la flamme.
Oui.
Par rapport à l'enfant.
Oui, sur la gauche.
Il y a l'air d'avoir un bouquin, là.
Oui.
Bah, l'enfant, il faut bien qu'il dise un peu. Hein. L'apprentissage, ça doit commencer tôt. Hein.
Non, c'est peut-être un livre de prière, elle prie sur son enfant.
Oui, il y a un livre de prière parce que, bah, voilà, il est son enfant, il faut que le livre de prière soit pas là. Et elle a posé ça sur un petit truc, voilà, une petite table.
Okay. Il est quand même court.
C'est court.
Elle a l'air grave.
Le tableau est un peu court, vous trouvez ?
Non, le bébé.
Ah, le bébé est un peu court. Bah, ça continue peut-être un peu par là. Hein. Peut-être que ça continue par là.
La tête de l'enfant est tournée vers la mère, donc là, est-ce qu'il y a un échange de regards entre les deux ?
Peut-être.
Il dort.
Il a l'air de dormir.
Oui, pas loin. Non, ce qui me surprend, c'est la hauteur
de la flamme. C'est hyper drôlement très haut. Mais tout à l'heure, avec la Madeleine, celle que vous évoquez, quand on parle de la Madeleine, on avait quelque chose d'un peu équivalent.
Oui, mais tu sais, c'était comme ça.
Bien, allez. La diseuse de bonne aventure.
Oui, et pendant ce temps, l'autre lui a dit que ça
en fait,
c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a la vieille bohémienne qui est en train de dire la bonne aventure au monsieur qui est là, et au moment où on lui dit la bonne aventure, quelqu'un est en train de lui faucher sa bourse. Et d'ailleurs, quelqu'un lui fauche là sa montre. Donc c'est celui qui croit connaître l'avenir qui en fait ne voit pas ce qui se passe à l'instant. Donc scène de vie quotidienne. Scène de morale aussi. Donc ce sera un peu comme nos tricheurs de tout à l'heure. Donc il y a tout d'allégorie. Ok.
Ah, ça, elle se cherche des puces.
Donc une chercheuse de puces. C'est un tableau qui dormit de se gratter. Hein. Donc une chercheuse de puces, scène de la vie quotidienne. Très bien. Ah ben j'ai fait une erreur, hein. J'ai montré deux fois le même.
Avec sa pauvre paysan,
ça vous fait penser quand vous voyez un tableau comme ça, ça vous fait penser à d'autres peintres ?
Ah oui, c'est ça.
Oui.
À qui ? Peut-être. Contemporain, peut-être proche de lui.
Le nain.
Le nain.
Ah oui.
Hein ? Vous connaissez le nain ?
Oui.
Hein ? un paysan avec sa troupe, son corps. Scène de genre, quoi. Voilà.
La lumière est bizarre aussi.
Ah, ben voilà.
Ça
l'enferme,
ça donne une transparence à son vêtement.
Oui, il a l'air un peu effaré. Oui, il a l'air un peu effaré. Il fait peut-être pas très chaud.
Il se frotte les mains.
Bah oui, parce que le coq peut être sympa dans un.
Hein? Ben voilà. Qu'est-ce qu'il a sur ses genoux?
C'est
sa ceinture.
C'est sa ceinture,
je pense.
Ta ceinture. Il est dehors.
Il a couvert de plaques de plats de tagine là, quoi, à gauche. Là.
Mais non, c'est la lanterne.
Ça, c'est la lanterne.
Tagine.
Là, qui ont faim.
Il voit déjà. Il voit déjà un poulet aux olives.
Et voilà. Eh bien non.
Mais il y a d'autres personnages.
À nouveau les joueurs de dés. Donc c'est la taverne de tout à l'heure, le corps de garde. C'est pas de la tour. Peut-être pas. Donc j'aurais mis une œuvre pas de, la, de Georges Latour. On vous ouvrir un petit piège, comme j'aime tant les faire.
Il y a deux personnages sur la gauche qui ne font pas partie de la même scène. Non.
Deux personnages un peu isolés, alors.
Enfin,
celui-là, les regarde. Hein. Une histoire.
Ce serait peut-être la ce que disait monsieur tout à l'heure à propos de le jeu pour la tunique du Christ.
Ah, ce serait donc là. C'est-à-dire que là se joue la tunique. Et qu'est-ce qui, plus que la scène dont on les voit en premier, vous donne l'impression que c'est ça?
Le vieil homme derrière a l'air d'être. Oui, Saint-Pierre ou.
Ah,
bah,
non, mais c'est
Saint-Pierre
quand
il
relie
parfois
et qu'il voit la servante.
Ah, ce serait Saint-Pierre quand
il
relie
parfois et
qu'il voit la servante.
La servante lui dit, mais vous étiez...
Donc je ne serais pas du tout la tenue du Christ, alors.
L'histoire du coq.
L'histoire du coq. Mais le coq, il était avant. Il est là. Mélangez pas tout, là. Ah, je suis sûr qu'il y a du mélange. Aïe.
Il était dans le tagine.
Non, mais là, c'est pas qu'il est...
Oui, il n'y a déjà plus de tagine.
La servante qui lui dit, mais tu étais, toi aussi tu étais avec lui. Non, non, et puis et surtout qu'il y a les soldats qui discutent à côté, tout, puis qui le regardent. Et l'autre, le regarde. Ah.
Donc ce serait l'histoire du reniement de Saint-Pierre. Donc ça n'a rien à voir avec la tunique du Christ qui est jouée au dé, c'est un épisode qui passera bien plus tard. Mais ce serait l'épisode du roman de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui renie, alors ta servante lui dit, non, je te connais, tu es Christ.
Et
les gardes autour ont l'air de commencer à s'intéresser à ce bonhomme.
Et puis ça se passe la nuit, en plus.
Et c'est la nuit, ouais. Donc là, en plus, ça coïncide. Ok.
Ah,
ça c'est Saint-Joseph.
Saint-Joseph. Qu'est-ce que vous dites que c'est Saint-Joseph?
Et puis il est en train de travailler sur le...
D'ailleurs, c'est quel outil de charpentier? Qu'est-ce qu'il fait, là?
Il creuse une tarière.
Et c'est pour faire quoi?
Creuser.
Ok. Donc là, il fait charpente. Voilà, il fait les pièces de charpente.
Et à côté, il y a un enfant. Bah, c'est peut-être c'est
l'enfant.
Donc il y a le Christ qui tient la chandelle de son père et est en train de travailler. Ok.
Et ce serait pas une préfiguration de
la croix?
De la croix, oui. Enfin, pas forcément de la croix, mais la croix, des clous.
Donc il y aurait dans le travail qui est fait sur cette sorte de poutre, dans laquelle on fait un trou à l'extrémité, une préfiguration de la croix.
En présence, oui.
Ok.
Et l'enfant est la lumière.
Et l'enfant, lui, est la lumière.
Il a quelque chose qui pend au cou, mais c'est pas une croix, j'ai pas l'impression.
Non, c'est un lacet de son.
Sa chemise,
si vous voulez.
Sa chemise,
ouais. Très bien.
Ecclésiastique.
Pardon?
À Flelou.
Ah oui.
Alors, un cardinal, un ecclésiastique qui vit.
Un prélat.
Il lit une lettre.
Il lit une lettre.
Il bulle. Pardon.
Une lettre.
Donc un prélat. Un prélat.
Cardinal.
Qui lit une lettre.
C'est le rouge.
Donc une, là aussi une scène de la vie quotidienne, une scène de genre. De plus.
Le tableau est tel que vous nous avez pas enlevé des.
Non. Non, chaque fois je vous montre les œuvres complètes. Donc une scène de genre. Un personnage disant une lettre, un prélat.
Il y a peut-être un prélat particulier à qui on a.
Il a des bécycles, ça existait déjà
Oh, dès le Moyen Âge.
Mais c'est bizarre la symétrie qu'il y a dans ce tableau.
Ouais, effectivement.
Qu'est-ce qu'il y a, je pense.
Il est très très de très comme ça de face. Très... Alors bon, les bras, les mains sont pas de fond minimum, mais à part ça, non, c'est très très symétrique. Avec la lettre hein, et sa pliure qui.
Un enfant qui souffle sur
une lumière.
Un enfant qui souffle, oui. Vous le connaissez celui-là ?
Non.
Ah oui ?
Il a une petite cuirasse, on dirait.
Non, c'est toujours une sorte de petit habillet en cuir, sans doute. Je vous dire, il y a un celui-là.
Qu'est-ce qu'il tient dans sa main ?
Ah ouais.
On
ne
voit pas ce qu'il tient.
Il fait comme ça.
Il n'y avait pas le jardin où on voyait un enfant qui faisait des bulles de savon.
Ah oui, absolument. Il y a un jardin célèbre. Oui, oui. Mais là, ce n'est pas trop des bulles de savon.
On ne voit pas trop sur quoi il souffle.
C'est sur une bougie.
Un coquillage. Une bougie.
On ne voit pas bien.
Forcément une bougie.
Ah, c'est la nuit, tout n'est pas très clair. Hein. Bien. Alors, on a fait le tour. Avant de relever les copies et de voir si ce que vous avez dit correspond à une réalité ou pas, si c'est tout n'importe quoi, si vous aviez en deux mots, puisque là, on vient de voir quand même une vingtaine d'œuvres de Georges Latour, un peu plus, hein. Si vous aviez à le caractériser en quelques mots, si vous aviez à dire, voilà, l'œuvre de Georges Latour, c'est ça, 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 vous diriez quoi? Synthétiquement, en quelques mots, signaler qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Georges Latour, qu'est-ce qui caractérise le travail de ce peintre.
Il y a deux parties.
Pardon ?
Il y a deux parties, parce qu'il y a une partie toujours dans les mêmes couleurs, rouge, brun, et l'autre, quand il y a les joueurs de cartes et autre chose, là, ça éclate en couleurs.
Donc, ça revient d'ailleurs un petit peu, effectivement, à ce qui a été dit, une partie plus diurne, une partie plus nocturne, peut-être.
Oui. Aussi, hein.
Une partie plus colorée. Pensez peut-être aux joueurs de cartes, etc. Hein. Et une partie au contraire plus sombre et plus brune.
Mais qui a toujours la même palette.
Ouais, ouais.
Ce sont toujours des personnages.
Donc un peu deux pans de l'œuvre, comme ça, oui.
Oui, oui ouais. Toujours le clair-obscur. Oui.
Alors, beaucoup de clair-obscur, ça c'est un des pans là-bas. Alors, que l'on trouve même dans les œuvres d'urnes d'ailleurs, hein, malgré tout. Hein. En tout cas, un contraste assez fort. Oui, ça c'est un deuxième élan qu'on peut noter.
Ce ne sont que des personnages, il n'y a pas de paysage.
Un parti pris réaliste.
Un parti pris réaliste.
Dans les tenues, normalement.
Un parti pris réaliste dans les tenues, ça on l'a remarqué à plusieurs reprises, notamment le fait que même ce qui semblait être des scènes allégoriques ou de l'Ancien Nouveau Testament était figuré avec des personnages en tenue contemporaine. Donc un parti pris réaliste.
Oui. C'est une scène
Pardon.
Il n'y a pas de scène intérieure.
Il y a beaucoup de scènes d'intérieur. Ok.
Il y a des scènes très intimistes avec deux ou trois personnes et d'autres qui sont avec quand même un nombre de personnes.
Il y a également des scènes de groupe et puis des scènes avec une ou. Il y a même des scènes avec une seule personne. À votre portrait tout à l'heure, là, avec la lance et le.
La petite femme,
la petite fille aussi.
Petite fille.
La fille avec la braise.
Oui, et puis le dernier. Hein. Ils ne sont pas très nombreux.
Il n'y a jamais de profondeur. Le fond est toujours.
Ouais.
Il n'y a pas de décor.
Pas de décor. Oui, pas de décor, il n'y a pas de paysage.
Non, pas un seul
ce que vous disiez tout à l'heure, c'est des scènes intérieures.
Pas un seul végétal.
Pas de végétaux.
Non. Peu de couleur verte.
Oui, pas trop de vert.
Des jeux de regard aussi au niveau des personnages.
Oui.
Mais par contre, des personnages qui ne regardent jamais.
qui ne nous regarde jamais. Et on n'est pas trop, on n'est pas très, tellement prêt à témoin. Oui. Ouais, il regarde un peu sur le côté quand même. Il est comme ça. Il regarde à l'extérieur.
Il y a pas mal de toiles qui ont leur, qui ont des visages, des personnages ont des visages ovales.
Oui.
Pas partout, mais certains, c'est très très marqué. Mm-hmm.
Dolichocéphale.
Pardon.
Dolichocéphale.
Ah oui. Oui. Bien. Alors, moi, j'ai remis un peu tout ça dans l'ordre, en classant ça d'ailleurs en deux ensembles. Alors, j'ai donc remis ça dans l'ordre, en classant ça dans deux ensembles. Vous avez effectivement remarqué qu'il y avait toute une série de scènes qui étaient des scènes de la vie quotidienne, etc. Et puis, il y a, en tout cas, vous en avez mis l'hypothèse, hein, toute une série de scènes ou de figures qui, elles, sont peut-être des éléments qui sont liés à, en gros, la peinture d'histoire. Hein. Donc, j'ai classé ça aussi selon... Alors là, vous ne l'avez pas rappelé, un instant, quand on essayait de singulariser qu'est-ce que c'était que l'œuvre de Georges Latour, mais je crois qu'une des choses que l'on peut souligner, c'est peut-être cette dichotomie-là aussi. Des scènes qui sont vivement des scènes de la vie quotidienne, qui peuvent avoir une dimension morale, vous l'avez vu, hein, mais aussi des scènes qui sont représentées avec des personnages de la vie quotidienne, mais qui, par contre, sont des scènes d'histoire, des figures historiques. On commence par lui. Parce que celui que vous voyez là, c'est saint Thomas. Saint Thomas, il a été tué avec un coup de lance. Donc, il tient l'assurance au martyr. Ça, le fait de représenter un saint avec l'assurance au martyr, c'est vieux comme le Moyen-Âge. En fait, on a là la transposition au XVIIe siècle de la vie des médiévales, qui est qu'un saint représente avec la trinité de son martyr. Hein, saint Thomas, c'est la lance. Notez que Jean-Joël Latour a fait, dans sa carrière, au moins deux... On appelle ça des apostolats, c'est-à-dire des séries de 12 portraits d'apôtres. Il y en a un qui est célèbre, qui est à Albi. Certains d'entre vous connaissent Albi, au musée Toulouse Lautrec d'Albi, il y a un apostolat de Georges Latour. Alors il se trouve qu'il y a trois œuvres qui sont de lui, les autres sont des copies, alors, c'est un peu long à expliquer, mais voilà. Et puis il y avait un autre apostolat, avec également sans doute 12 apôtres, dans lesquels il reste que, enfin connu actuellement, que le saint Thomas que vous voyez là. Donc là, on a certainement une figure de saint Thomas, mais qui appartenait à l'origine à un ensemble de figures d'apôtres. Ça, c'est sans doute saint Jérôme. Hein, saint Jérôme est très souvent présenté au XVIIe siècle comme ça, avec l'habit, effectivement, d'un religieux, vous le disiez tout à l'heure, hein, de haut niveau, représenté comme ça, lisant, saint Jérôme, il n'arrête pas de lire, etc. Hein. Il n'y a pas, évidemment, les attributs habituels, le crâne, etc. Mais il se trouve que Georges Latour a fait d'autres saint Jérôme, très équivalents. Saint Jérôme, c'est une autre représentation importante faite par lui. Et puis alors là, vous avez bien reconnu le Christ charpentier. Et vous avez raison, hein. Si le Christ, est, alors c'est bel et bien l'enfant Jésus que vous avez là, son père qui est en train de faire la croix, effectivement, enfin qui est en train de faire la croix, qui est en train de travailler du bois, mais vous aviez raison, c'est une évocation de l'avenir de son fils. D'ailleurs là, il est en train de creuser un trou, tout comme on le fait dans la croix, pour l'emplacement, on va mettre les clous pour le Christ. Vous voyez ce que je veux dire? On a là, effectivement, une préfiguration du martyr du Christ, alors même que Christ est enfant. Ça, c'est une chose qu'on trouve très, très, très souvent hein, dans la peinture du XVIIe. Hein. Une préfiguration dans l'enfance du Christ de sa vie future. Hein. Et là, il regarde, en fait, son père qui est en train de faire des pièces de charpente, mais qui évoque la croix sur laquelle lui-même sera crucifié.
D'ailleurs, il a son regard qui part... plus loin que Saint-Joseph.
D'une certaine manière, oui. Il a aussi un regard un peu flottant. On l'a remarqué dans beaucoup d'autres œuvres. Hein. C'est vrai. Alors là, vous l'aviez remarqué, c'est un tableau qui a toujours beaucoup fait parler de lui au niveau de son sujet. Maintenant, on s'accorde pour dire que ce nouveau-né, c'est bel et bien la nativité du Christ. Donc, effectivement, vous l'avez noté, Jean Latour, c'est quelqu'un qui représente des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais avec des habits, des éléments qui sont ceux de son temps, notamment pour les autres vous disiez, pour faire rendre la chose plus proche de nous, si vous voulez. Hein. Et il n'est pas le seul à le faire à l'époque. Hein. Il y a bien d'autres artistes, vous parliez des Frères Lemain tout à l'heure, qui font la même chose. Hein. Donc on a là, sans doute, une représentation de la Vierge, Sainte-Anne, l'enfant, mais qui sont représentés comme, je dirais, des gens de la haute paysannerie qui nous sont ici représentés. D'ailleurs, vous avez également vu ce tableau tout à l'heure, qui est très vraisemblablement la même chose. Et vous avez remarqué aussi que là, il y avait un bouquin. Ce que vous avez moins remarqué, c'est qu'il y avait là, alors j'ai essayé de vous mettre sur la voie, je vous dis, oh, il y a un petit truc rouge. Bon. En fait, ce que vous voyez là, c'est les genoux, sans doute, de quelqu'un. Parce que ce tableau n'est sans doute que le fragment d'un tableau plus complet. Et ça, on le sait, parce que Latour est très étudié. Hein. Mais il se trouve que l'on connaît une gravure d'un tableau de Georges Latour que voilà. Une gravure qui est en sens inverse, c'est normal. Quand on grave une œuvre, on la tire forcément en sens inverse, parce qu'on la grave. Il faut retourner. Donc ce que vous voyez là, c'est un tableau de Georges Latour, aujourd'hui disparu, mais pour la partie centrale, correspond sans doute au tableau que je viens de vous montrer. D'ailleurs, quand on retourne la gravure et qu'on regarde le tableau en question, vous voyez que l'un correspond à l'autre. On peut même les chevaucher. Vous voyez ? Donc, on va peut-être retrouver un jour cette figure-là. Vous savez qu'on a beaucoup, après le 17e, découpé des œuvres pour des raisons mercantiles. Hein. Ça rapportait plus de faire deux œuvres qu'une. Donc, ici, on a un fragment d'un tableau dont on connaît la composition complète, mais qui n'est qu'un fragment d'une œuvre plus large, qui est vraisemblablement aussi une autre version de la Nativité du Christ. D'accord ? Là, vous ne l'aviez pas vu, mais c'est l'obligation de la Vierge. Hein ? Cette œuvre est sans doute d'ailleurs plutôt une œuvre d'atelier. Georges de la Tour a eu un fils, notamment, qui a prolongé son œuvre, et on pense que cette œuvre-là, pour différentes raisons, sur lesquelles je ne reviendrai pas, est plutôt une œuvre de l'atelier de Georges de la Tour que de Georges de la Tour lui-même. Mais vous avez certainement là Sainte-Anne et la Vierge qui, effectivement, apprend à lire. C'est bien l'apprentissage dont vous parliez tout à l'heure, mais via une scène de sainte. Il s'agit encore une fois de la Vierge et de sa mère. Ça, vous l'aviez un peu vu, mais pas trop. C'est le songe de Joseph. Vous savez que quand les rois mages viennent voir l'enfant Jésus et Joseph, dans la nuit qui suit, un ange va venir voir Joseph et lui dire de partir très vite avec son épouse et Jésus en Égypte pour éviter le massacre des innocents. Eh bien ça, c'est l'épisode du songe de Joseph, celui où Joseph dort, mais où un ange, car c'en est un, effectivement, vient le visiter. Il n'y a pas d'ailes, mais ça, c'est pas grave. On est au 17e siècle, je ne représente pas des anges avec des ailes. Les anges, c'est vous et moi. Enfin, surtout moi, d'ailleurs. Voilà, mais si vous voulez, voilà, l'idée, c'est de représenter les saints personnages comme vous et moi. Voilà. Donc l'ange, il doit être très quotidien. Hein, c'est ça le but. Donc ici, on a le songe de Joseph. Là, c'est effectivement la Madeleine. Alors certains d'entre vous l'avez vu. Hein. Quand on parle de vanité, on parle plutôt de nature morte. Hein. On pourrait dire, si le tableau se limitait à ça, que ça c'est une vanité. Là, c'est plutôt Sainte Madeleine. Alors il se trouve qu'il y a les éléments d'une vanité, mais c'est plus Sainte Madeleine. Sainte Madeleine, vous savez, c'est celle qui a reconnu le Christ après sa mort. Enfin, une figure dont on a déjà ici beaucoup parlé. Hein. Deuxième partie de sa vie, notamment dans le sud de la France, hein, d'ailleurs, se retirer, c'est sa légende qui veut ça, hein, Saint-Maximin, Sainte-Baume, hein, et elle va se retirer, et elle va être pénitente pendant très longtemps, c'est elle qui est représentée ici. Là, vous ne l'avez pas vu, mais c'est Saint-Pierre. Il y a le coq, c'est ça. Donc c'est pas un paysan qui est avec son tagine en train de faire ça, je sais pas quoi. C'est Saint-Pierre qui est là. Et Saint-Pierre, il a ici son attribut. C'est un peu comme l'attribut de Saint-Thomas. L'attribut de Saint-Pierre, l'un de ses attributs, c'est pas que les clés, c'est aussi le coq. Parce que le coq, c'est celui qui va, au moment de son reniement, lui rappeler qu'il a renié. C'est pour ça qu'il y a des coqs sur les clochers des églises. C'est pour nous faire penser à nous tous en permanence. On est en permanence en train de renier le Christ. Et il y a le coq qui chante sur le clocher des églises. C'est pour ça qu'il y a un coq sur le clocher des églises. Les coqs nous rappellent en permanence, perchés là-haut, notre condition, qui essaie de ne jamais faire ce qu'il faut complètement pour être dans les pas du Christ. C'est ça l'idée. Ça, alors, c'était plus compliqué. Ça allait être couvert du corps de Saint Alexis. Saint Alexis est un saint qui a eu une histoire assez extravagante. Hein. Saint Alexis était né dans une bonne famille, mais il a décidé, le jour de son mariage, de partir en Orient et de retrouver une condition très, très pauvre. Mais il décide vraiment de retourner chez lui. Et il va, pendant une vingtaine d'années, vivre auprès de la famille qu'il avait quittée auparavant, mais sans se faire connaître. Il va vivre sous un escalier, près de sa famille, qui donc l'a perdu de vue, si j'ose dire, et un jour il va mourir. Et un jour, en allant sous l'escalier, un, un jeune homme de la maison qu'il avait quitté, dans lequel il est revenu sans se faire connaître, encore une fois, va découvrir son corps, c'est ce que vous voyez là. Donc vous avez raison, il est mort, un jeune homme est en train de le découvrir, et va trouver dans sa main un petit papier qui raconte son histoire. C'est ça qui permettra de voir qu'il s'agit de Saint-Alexis. Une drôle d'histoire.
Mais qu'est-ce qui en a fait un saint ? Pourquoi c'est devenu un saint ?
Parce qu'il s'était voué à la pauvreté. Il était issu d'une très bonne famille, etc. Il a tout quitté du jour au lendemain. Il est allé s'occuper des pauvres, etc.
Bon, il aurait pu le faire avant son mariage.
Oui, ça n'est pas son choix. Par parenthèse, vous aviez remarqué là qu'il y avait quelque chose, et notamment cette ligne-là. C'est un tableau qui certainement a été complété. C'est-à-dire qu'à l'origine, ce tableau était un tableau carré, si vous voulez. Et puis à l'époque X ou Y, on a dû trouver que c'était un peu, ça n'allait pas, qu'on avait un mur plus grand. Alors on a complété ça en faisant une espèce de voûte que vous avez là. Mais vous voyez bien la différence de peinture. Hein. Vous savez, il y a quelquefois des tableaux qu'on rapetisse, on vient de le voir, il y a des tableaux qu'on agrandit pour les mettre au bout du jour et puis pour les mettre dans un lieu où il faut qu'ils soient plus grands. Par parenthèse, ça c'est sans doute aussi un tableau de l'atelier Georges Latour, peut-être de son fils.
Ce qui est curieux, c'est Saint-Alexis, ça fait oriental et pas du tout...
Mais il est allé bel et bien en Orient, hein, Saint-Alexis. Ouais, d'accord. Là, vous aviez raison, c'est le reniement de Saint-Pierre. Tableau typique de lui, hein, qui montre comment, avec des figures, assez habillées comme au XVIIe siècle, on représente une scène du Nouveau Testament. Là, vous avez trouvé Saint Jean-Baptiste, pas de problème, c'est bon. Et voilà pour les scènes religieuses. Maintenant, pour les scènes à vie quotidienne, il y a effectivement les mangeurs de pois que vous voyez là. Hein. Il y a cette rixe des musiciens. Donc, qui est effectivement, vous avez raison, hein, une scène tout à fait de la vie quotidienne, hein, des musiciens qui se tapent dessus, mais qui est également quelque chose qui donne une idée de la morale. Hein. C'est-à-dire, en gros, c'est pas la peine de se mettre en colère, et puis c'est un peu l'idée que le jeu n'amène jamais à des choses formidables.
Est-ce que c'est un autoportrait sur l'extrême droite, le personnage qui nous regarde ?
A priori pas.
Non.
Non. Ça, c'est un vielleur aveugle, d'ailleurs, hein. Je ne l'ai pas remarqué, mais c'est vrai qu'on ne voit pas très bien ce soir. Donc voilà, là aussi, une scène de la vie quotidienne. Le vielleur nous rappelle presque un des personnages que vous voyez à gauche ici, hein, qui est également un personnage manifestement aveugle. Là, vous aviez bien vu la Ligeuse de Bonaventure. Hein. Vous connaissez d'autres artistes qui ont fait ce thème ?
Oui.
Qui ? Eh bien, Caravage, on a fait deux. Hein, tout à l'heure, vous avez signalé... Et d'ailleurs, des joueurs de cartes, Caravage en a fait aussi. Donc, ce genre de thème-là, c'est très typique de cette filiation avec Caravage. Là, vous avez le fameux tricheur. Par contre, ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure, et que vous avez mis sur mon dos, hein, je m'étais trompé, c'est qu'il y en a plusieurs. Ça, c'est le tricheur à l'as de carreau. Et là, vous avez le tricheur à l'as de trèfle. Ça n'est pas les mêmes. Eh oui. Et ça, vous ne l'aviez pas remarqué non plus. Allez, voilà. Voilà. Ah oui. Oui, parce que ce qui est intéressant, si vous voulez... Oui, on ne voit pas très bien. Oui, surtout aujourd'hui, c'est très trouble. Non, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir comment Georges Latour, comme d'autres à l'époque, n'hésite pas à répéter des thèmes. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Des thèmes qui marchent, ou autres, on peut lui demander, d'ailleurs, on peut lui dire, écoutez, j'aime bien votre tableau, est-ce que vous pouvez le refaire, hein. Alors, évidemment, vous voyez, il peut y avoir des différences. L'as de carreau devient l'as de trèfle, etc. Mais, voilà, l'idée de la répétition est une chose qu'il ne faut jamais oublier. D'ailleurs, on l'a peut-être presque vu tout à l'heure aussi avec le nouveau-né, rappelez-vous. Ouais. Pas le même tableau, mais l'un fait penser quand même à l'autre. Là, vous l'aviez vu, une femme qui s'épuce. Bon, une scène de vie quotidienne, un peu sans dire. Et ça, je vous demande si vous connaissez, parce qu'il est ici. Hein. Il est à Dijon, ce tableau-là. Hein. Alors, tous au musée de Beaux-Arts Dijon pour aller le revoir. Hein. Visiblement, ce n'était pas très clair. Hein. Ça, c'est au musée de Beaux-Arts Dijon. Il y a en Bourgogne, à Georges Latour. Eh oui. Donc, voilà, comme quoi, vous voyez, on ne connaît pas toujours ce qu'on a sous les yeux. Et il est en train, ce petit garçon, il a une lampe à huile, vous voyez peut-être la lampe de lampe à huile, et il tient un tison pour allumer la mèche de la cendre à huile. Ce que vous voyez là, c'est un tison, vous voyez, un bâton avec le bouc qui est en braise, quoi. Enfin, voilà, hein. Et il allume la lampe. Ok ? Voilà. Très beau tableau, Georges Latour, il est au musée de Beaux-Arts de Dijon, c'est pas trop loin. Et qui est très proche de cette petite jeune fille qui est au Louvre à Abu Dhabi, hein, et qui nous fait beaucoup penser à la même chose. Voilà, des charmantes scènes quotidiennes, hein, de la tour. Et là, je vais redonner, alors vous avez raison, on pourrait peut-être y voir un tableau qui évoque la fameuse la mise en jeu des vêtements du Christ. Voilà. Ça montre bien alors, l'ambiguïté de Georges Latour. Hein. Chez Georges Latour, à chaque fois qu'il y a une scène religieuse, on se dit, est-ce que c'est vraiment une scène religieuse? Par exemple, le nouveau-né. Ouais. Ce que c'est. Et à chaque fois qu'on voit une scène de gens, on se dit, mais est-ce que ça s'appelle une scène religieuse? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est là qu'il est assez fort. C'est-à-dire qu'il fait que les chaînes, vous voyez, les scènes religieuses sont tellement proches de nous qu'on peut penser que ce n'est pas des scènes religieuses. Et les scènes de gens sont tellement de gens comme scènes religieuses qu'on peut se demander si ce n'est pas finalement des scènes religieuses. Par exemple, la femme à la puce, on s'est demandé si ce n'était pas vraiment une scène religieuse, mais que pour l'instant, personne n'aurait vraiment identifié. Et là, on se demande si ce n'est pas effectivement l'épisode de la tunique du Christ. En même temps, rien ne permet absolument de l'affirmer, mais ça a été bien pensé. Donc, cette ambiguïté, elle est volontiers. Dans le l'œuvre du genre.
Est-ce que c'est pas un moyen d'arbitrage pour, dans une période où c'était assez difficile au niveau religieux, de se dire on fait
du religieux,
on interprétera.
Alors, c'est pas difficile pour tout le religieux. La France est très catholique à cette période. Hein. Donc, une scène catholique, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. C'est plus compliqué de faire des scènes qui peuvent plaire à un public protestant. Hein. On sait que les protestants, au XVIe d'abord, et au XVIIe, surtout dans la deuxième moitié du XVIIe, auront quelques problèmes. Hein. Et même parfois des gros, et des sacrément graves. Bon. Voilà. Donc, là, si vous voulez, on est au milieu du XVIIe. Ça va encore, sauf qu'effectivement, ça peut plaire à tous les publics, si j'ose dire. Vous avez raison, hein, en ce sens, une scène comme ça peut plaire un peu à tout le monde.
C'est vrai. Les tableaux de la tour, ce sont des commandes ou c'est comment qu'est-ce qui, les tableaux qu'il produit, ce sont des commandes
Ça dépend. Il y a des tableaux qui
mènent.
Alors, il y a manifestement les deux. Il y a des tableaux qui, effectivement, lui ont été commandés. Ça, on en a des traces pour quelques œuvres de tableaux qui, effectivement, ont été commandés et donc il a fait sur commande. Après, c'était à lui d'incarner la commande. Hein. Ou des tableaux qui, manifestement, ont été faits par lui et achetés et qui ne sont pas forcément des commandes. Les deux ont dû exister.
Et il était reconnu à l'époque?
Ah oui.
Oui,
Louis XIII avait un tableau Georges Latour dans sa chambre. Donc, oui, c'est important ce que vous dites, parce qu'on a longtemps vu dans Georges Latour une sorte d'artiste un peu provincial, un peu perdu dans sa Lorraine, connu de quelques vagues édiles locaux. Non, Georges Latour est un artiste qui a eu une aura beaucoup plus importante. Je ne vous dis pas qu'il avait, voilà, que l'Europe entière était à ses genoux, mais ce n'est pas du tout un artiste non plus, vous voyez, qui est là dans sa soupente et qui, que personne ne connaît. C'est vraiment un artiste qui a une certaine notoriété, hein, qui est d'ailleurs perdue. Hein. Très vite, au XVIIIe, XIXe siècle, Georges Latour, vous savez que c'est au début du XXe siècle, donc il y a un siècle à peine, hein, qu'on a vraiment reconstitué l'œuvre de Georges Latour, qui était complètement paumée, hein, et qui a été cachée sous des œuvres d'artistes nordiques du XVIIe siècle. Hein. Vous l'avez remarqué à plusieurs reprises, hein, que ça vous ait pensé à des flamands du XVIIe. Hein. Effectivement, longtemps, on a vu dans les œuvres de Latour des œuvres flamandes du XVIIe, italiennes du XVIIe, mais pas françaises. C'est en retrouvant quelques œuvres avec des signatures, en regardant beaucoup plus d'œuvres, qu'on a pu reconstituer l'œuvre de Latour, c'est ce qu'on a fait ce soir. Ce que je voudrais, en termes de... On a encore 10 minutes. On a souhait. On a 5 grosses minutes. J'aurais voulu, parce que je trouve que ce serait utile, que très très rapidement, on regarde une dizaine de tableaux français du XVIIe siècle et qu'on essaie de voir comment est-ce qu'ils peuvent se situer, et peut-être même d'en reconnaître les artistes. Par exemple, si je vous montre ça, est-ce qu'en deux mots, vous pouvez me dire quelle est la scène? Quand vous situez cette œuvre? Georges Latour, vous le situez quand? Vous avez vu les dates. Oui. Son travail, c'est quand, en gros? Première moitié du XVIIe, en fait. Hein, voilà. Là, vous situez ça quand?
C'est Alexandre.
C'est Alexandre?
C'est Persée.
C'est Persée. Persée, Andromède et le monstre qui a été tué. Vous savez que Andromède a été mis sur un rocher, le monstre doit venir la dévorer, mais Persée arrive sur Pégase, avec d'ailleurs la tête de Méduse, hein, et va délivrer Andromède en tuant le monstre, et le père d'Andromède, le roi, va venir le féliciter. C'est Persée. Vous mettez ça au début, au milieu, à la fin du XVIIe?
Début.
Un artiste? Le Brun. Super. Mais tout le monde rire, parce que je dois dire que dans l'atelier précédent, qui est un lieu sur la tapisserie, on a beaucoup parlé pour l'intervention du XVIIe des cartons de Lebrun. Alors depuis, Lebrun est une sorte de... Private
Joke. Ça, c'est le Lorrain.
Le Lorrain, ok. Le Lorrain, oui. Ça représente quoi?
Un port. Imaginaire.
Et vous mettez ça quand?
C'est pas le voyage
à la fin.
À la fin. Et là?
Jour de quart.
Tiens, ça nous rappelle quelqu'un.
Ouais.
C'est lui?
Il n'est pas français.
Non.
Il n'est pas français.
Celui auquel on parle. Caravage.
Donc ça, ce serait Caravage?
Non, justement.
Alors c'est qui ça?
Je sais pas.
Oui, il y a une main dans un chien.
Non, c'est un
chien. Il triche, il est caché.
Ah oui, on voit sa tête aussi. Il est en train de.
C'est un tricheur. Lui est en train de regarder le jeu de celui-là et de montrer que c'est un 2 à celui-là. C'est la même tricherie que tout à l'heure. Vous voyez que Jean Jatteau n'est pas seul. Mais là, vous ne savez pas, vous verrez. Et là, c'est quoi? Ça représente quoi?
Des anges.
La chute d'Icare. Pardon?
La chute d'Icare.
Il y a beaucoup d'anges pour Icare, je trouve.
Oui, je sais pas, il y a quelqu'un qui tombe là.
Ah oui, oui, le roc qui tombe, oui. Il est en plongée.
Quoi, un espèce de tonneau là.
Pont à Marie.
Oui. Elle est longue, votre bouteille de gaz. Ça vous êtes des grandes bouteilles de gaz.
Des ailes.
C'est pas une
apothéose. C'est une colonne.
Une colonne.
Regardez.
Ah oui, elle va jusqu'en haut.
Elle est une colonne.
Elle n'est pas droite.
Ah non, elle n'est pas droite. Évidemment, parce que les anges la portent. Ça vous dit rien? Un artiste? Et vous mettez ça quand?
Comme l'autre.
Plutôt début.
Et là?
Il y a
une descente de croix.
Toujours avec
des clairs obscurs. Très clair obscur. On voit d'ailleurs une chandelle. Et là, c'est pareil, vous voyez ça quand?
1630.
Très bien. Et là?
C'est une tapisserie.
C'est une peinture. On n'est plus dans l'atelier précédent.
C'est
les gens des tapisseries, comment est-ce qu'on appelle une tapisserie avec un double encadrement?
Alentour.
Tapisserie à alentour. C'était un... Ouais. Quelle différence fondamentale vous voyez entre ça, par exemple, et les tricheurs qu'on a vus juste avant?
Les tricheurs, c'est
réaliste.
Les tricheurs,
c'est très réaliste. Oui, là, ça l'est moins, effectivement. Ouais. Si vous vouliez donner des noms de grands courants artistiques à ça, vous diriez quoi? Baroque. Ok. Et ça?
Moïse.
Ah oui.
C'est qui, c'est quand?
C'est la descente du Sinaï.
Plutôt fin. Un nom d'artiste? Non. On verra. Et ça?
Ne me touche pas.
Mais ça rencontre quoi, ce ne limit tangérer?
Mais
quels sont les protagonistes?
Marie-Madeleine.
C'est Marie-Madeleine, celle qu'on a vue tout à l'heure par Georges Latour, hein, qui était pénitente. Et elle rencontre qui?
Le Christ ressuscité,
on voit son tombeau ouvert là. Là aussi, quelle est la grande différence, par exemple, entre ça et ce qu'on a vu juste avant?
Il n'y a pas de vêtements réalistes.
Oui.
C'est des supposées.
Voilà, là, évidemment, c'est pas du tout réaliste. Hein. C'est pas du tout.
Il y a de la végétation.
Et par rapport à un tableau comme ça. Ça et ça, même combat?
Non.
Mais encore.
L'autre, c'est de l'imagination.
Oui, c'est du délire artistique.
L'autre, c'est pas du tout du délire.
Non, c'est du délire.
L'autre, c'est plus décor.
Un rôle de décor.
Ok. Et ça?
Une activité. Ça, c'est une activité.
Ça, c'est une activité.
Une activité. Par
contre, les couleurs sont
très
tristes. C'est quand? C'est qui? C'est quoi?
C'est les bergers qui viennent.
C'est l'adoration des bergers, ok. Oui. C'est quand et c'est qui ça?
C'est la fin.
C'est la fin pour toi? Ok. Il était temps qu'on fasse un atelier sur le 17e siècle. Et là?
Le jugement de Salomon.
Vous me dites en deux secondes de quoi il s'agit?
Deux
femmes qui se disputent, pourquoi?
Un enfant.
Un enfant, l'une a un enfant mort, l'autre un enfant vivant, et qu'est-ce qu'elles disent? Toutes les deux disent l'enfant vivant, c'est le mien. Et alors? Elles viennent dans le salon, et Salomon dit? On coupe en deux, c'est ce que s'apprête à faire le garde qui est là, à couper en deux l'enfant vivant, alors que celui-là est mort.
Et la vraie mère dit ne le fais pas.
Voilà. Et la vraie mère, celle-là, dit ah non, ne le fais pas. En clair, elle préfère que son enfant, même si c'est le sien, ne soit pas coupé en deux. Et qu'est-ce que dit Salomon? Quelle est la mère réelle? Ok. Voilà. Très bien.
C'est ça, on est bon.
Ça, c'est bien. Sans faute. On va dire sans faute. Ah oui, mais vous ne m'avez pas dit de qui c'est. Tout à l'heure, je vous ai montré ce tableau-là et vous m'avez parlé de baroque. Est-ce que là, on peut parler de baroque?
Non.
Alors c'est quoi?
C'est presque classique. Là.
C'est classique. Classique, ok. Ouais. Et quel peintre? Pardon?
Poussin.
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 Ok. Ils sont plutôt morts. On ne fait pas que dormir de la peinture du 17e.
Le massacre des innocents?
Ce serait des enfants, il n'y aurait que des enfants, oui, mais il y a des gens plus âgés.
Ils sont morts de peste.
Au revoir.
Au
revoir.
C'est pas la fuite en Égypte? Qu'est-ce que c'est pas?
Ah, c'est vrai que, oui, il y a ça qui vous fait penser à la fuite d'Égypte dans le fond. Hein.
On n'a pas vu ce truc.
Je pense que oui.
Bien ce qu'il semble. Hein.
Il y a quelques temps déjà.
Ah, c'est le titre de la Bible.
Dans les morts, il y a des hommes et des femmes.
Ouais. Et en tout cas, vous mettriez ça dans quel type de courant artistique au 17e?
Classique. Romaine.
Classique.
Classique.
Oui, à cause des ruines romaines, de façon.
Classique. Bien.
Alors, voilà, je voulais vous montrer ça parce qu'on a parlé de Georges Latour, mais je trouve aussi important qu'on place un peu Georges Latour dans un 17e siècle français plus complet qu'on vient de résumer. Là. Alors, essayons de revoir ce qu'il en est. Là, j'ai mis les choses dans l'ordre pour essayer de reconstituer ce 17e siècle dans lequel se situe Georges Latour. Okay, ça, c'est une œuvre de Jacques de Bellange, qui est un artiste du début du 17e, on est vers 1614. Vous voyez, ça, c'est un tableau qui est encore très... très renaissant, presque même médiéval encore. Regardez, il y a même le donateur dans le coin. Vous savez comment on faisait au Moyen-Âge? Vous avez vraiment là un tableau qui est un tableau qui date du 17e et qui est encore très archaïque. Vous savez, ça, ces personnages également comme ça font vraiment penser à l'école de Fontainebleau, des choses là. On est vraiment dans quelque chose de très primitif, si vous voulez, entre guillemets. Après, il y a ça. Ça, c'est dû à Valentin. On appelle Valentin de Boulogne. Valentin est quelqu'un qui a vécu à Rome. Voilà quelqu'un qui a été dans l'entourage, pour le coup, de Caravage. Hein. Et c'est quelqu'un, là aussi, hein, qui fait partie, c'est un petit dont vous êtes tout à l'heure. Georges Latour n'est pas le seul à avoir fait ses tricheux, etc. Valentin de Boulogne, c'est un artiste qui travaille exactement de la même manière que de Latour, finalement. Ça, c'est de Simon Vouet. Et j'espère que vous connaissez ça, parce que ça, c'est pas mon nom, ils sont au musée des Beaux-Arts de Régine Besançon. C'est à côté, ça aussi. Donc ça, c'est une œuvre de Simon Vouet qui est capitale. Hein. D'ailleurs, le musée de Besançon vient de l'acquérir parce que le musée de Besançon possédait déjà l'œuvre qui est son pendant. Maintenant, il y a donc les deux. Et ça, c'est les anges tenant les instruments de la passion, tout simplement. L'échelle, la colonne, etc. Hein. Et cette œuvre se trouvait où à l'origine? Et bien derrière la Pietà de Michel-Ange. Mais c'est la Pietà de Michel-Ange au Vatican. Et bien derrière la Pietà de Michel-Ange, il y avait quoi? Il y avait ça. Sauf que là aussi, ça a été coupé en morceaux. Hein. Là, on voit là deux morceaux. Il y en a deux morceaux dans un musée américain. Mais ces éléments-là proviennent du Vatican et de l'art, de la peinture qui était à la Pietà, qui a été enlevée plus tard, remplacée par une mosaïque qui représente la même chose. Mais voilà les éléments originaux du à Simon Vouet. Ça, vous, ces œuvres-là appartiennent à quel courant artistique pour vous? On est au 17e, mais dans quel type de courant artistique? Le classicisme.
Oui.
Vous trouvez?
Moi, ça ressemble plutôt au maniérisme.
Oui, maniérisme, ce serait au 16e siècle.
Oui, bah oui, c'est un
peu tard. Ben, c'est baroque. C'est baroque. C'est un peu la même chose que ce que l'on verra après. Ça, vous l'avez par connu, c'est les frères Blondin. Enfin, c'est Louis Lenin, précisément. Vous savez, les frères Blondin, c'est un peu pareil que Georges Latour. C'est-à-dire, les voilà qui présentent une adoration des bergers avec des costumes du 17e siècle. Les Lenins, c'est ça. C'est l'idée, un peu comme Georges Latour, de représenter des éléments très réalistes. Poussin, vous l'avez bien vu, Jean Savant. Alors là, Poussin, vous savez que c'est le chant du classicisme. Hein. Vous voyez que c'est complètement différent entre ça et ça.
Ouais.
Franchement, c'est pas pareil. Hein. Là, vous avez une sorte de tourbillon tempétueux, alors que là, vous avez une organisation au cordeau. Et Claude Jollet, c'est également quelqu'un qui fait partie de ces classiques, hein, avec toujours des architectures très organisées, etc. Souvent, c'est des scènes de port imaginaires, mais souvent, il y a quand même quelque chose, là, c'est l'embarquement de la reine de Saba, qui va voir Salomon. Ça, c'est de Sache le Sueur. Ça représente ce que vous avez dit, le Denis étant géré, le Christ apparaissant à la Madeleine. Le Sueur, comme d'ailleurs la Hire, c'est des articles qui appartiennent à ce courant classique, mais qui vont pousser le classisme encore plus loin. Si vous voulez, c'est un retranchement, vous pourriez dire. Hein. Vous voyez, là, il n'y a vraiment quasiment rien. Deux personnages, c'est très épuré. Hein. Il n'y a pas ces flots d'anges qui voguent dans les flots, hein. Dans les cieux, je veux dire. Ce classicisme poussé à bout, c'est ce qu'on appelle l'atticisme. C'est vraiment des gens qui, dans la lignée de Poussin, vont encore aller plus loin. Et c'est pareil pour Laurent Blahir, pardon, qui représente aussi la mort des enfants de Bethel. C'est effectivement une scène de l'Ancien Testament qui est une vengeance contre une famille. Et une ours va venir tuer tous les membres de la famille. C'est son bruit au premier plan. Là, vous l'avez reconnu, c'est Moïse avec l'homme de la loi. C'est une œuvre de Philippe de Champagne. Là aussi, un artiste qu'on peut classer dans ce sillon du classicisme, vous voyez. Hein, on n'est pas du tout le baroque. Alors qu'avec Mignard, Persée-Andromède ou Le Brun, la chute des gens rebelles, car voilà Le Brun. Vous l'avez même pas reconnu. Vraiment fixé. Quand je pense qu'on a sur Le Brun, n'ont plus pouvoir que dès qu'on voyait n'importe quoi, vous disiez Le Brun, dans Le Brun, vous n'êtes même pas capable de le voir. Franchement, c'est un désespéré. Voilà. C'est la chute des ondes rebelles, c'est une esquisse pour le plafond de la chapelle de Versailles. Voilà. Donc, tout ça pour vous montrer comment le XVIIe siècle, vous le voyez, part de choses encore très néo-médiévalo-naissantes pour aller dans le petit caravagesque vers des œuvres telles que celle-ci. Mais déjà, le baroque, qui est déjà fulgurant à Rome, hein, mais Vouet est passé par Rome, hein, va petit à petit s'imposer. Voilà le nain qui, comme Valentin, propose des scènes, en l'occurrence, comme Georges Latour, hein, venant de Nouveau Testament, mais avec un vocabulaire très réaliste. Et puis le classicisme nous impose avec Nicolas Poussin, avec Claude Jollet, avec des artistes qui poussent le néoclassicisme encore plus loin, Le Sueur, Lahire, Philippe de Champagne. Et puis, dans la deuxième moitié du siècle, c'est le baroque, qui avait déjà été, on l'a vu, hein, initié par des gens comme Vouet, mais qui s'impose avec Mignard. Regardez ce que vous avez là, c'est bien différent du Salomon Nicolas Poussin. Hein. Là, vous avez, enfin, ça bouge, quoi, jusqu'au flot sur le devant, il monstre. Hein. Ou bien ça, encore plus. Hein. Vous voyez comment on a, au XVIIe siècle, ici en France, et c'est aussi en Italie, une sorte de combat classique-baroque qui s'incarne à cette période. Voulez-vous ? Oui ?
La tour est complètement à part.
Oui et non, parce que la tour fait penser à Valentin, fait penser au Lenin. Vous voyez, c'est un artiste qu'on si tenté qu'il faille classer les artistes, c'est quand même quelqu'un qu'on peut rapprocher de ça. Vous voyez, donc là, c'est vrai que Latour n'est pas du tout un classique, pas du tout un baroque. Il fait plutôt partie de cette veine réaliste dans laquelle on peut trouver Valentin et le nain, et des réalistes qui sont très travaillés par toute la question du clair-obscur.
Parce que son Saint-Jean-Baptiste, il est quand même très abrupt, en fait, il est loin de
alors,
de tout ça.
de toute façon, vous savez, ces espèces de cases que l'on fait, qui, à mon avis, ont intérêt quand même de structurer un peu l'esprit, hein, sont des cases qui sont toujours vraies et fausses à la fois. Vraies parce que, évidemment, il y a plus de proximité entre la tour et le nain, par exemple, qu'il y en a entre la tour et, je sais pas moi, le brun. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important d'avoir des espèces de cases dans lesquelles on classe un peu les gens, mais vous avez raison, après, il y a des espèces de ponts, hein. Et on pourrait voir dans certaines œuvres du genre de la tour, notamment celle de la fin, même le Job, hein, une sorte de pureté, même si elle est nocturne, qui quelque part pourrait nous rappeler certains des artistes post-classiques, vous voyez, atticistes par exemple. Hein. Mais donc rien n'est jamais ça. Hein, et ces cases ne sont pas étanches. Voilà. Mais je voulais quand même vous montrer ça, parce que là, mine de rien, en 10 diapos, vous avez un résumé du XVIIe siècle français à travers la peinture. Et pour les séances qui vont continuer, on ne va pas simplement rester en France, hein, vous allez petit à petit, vous allez voir en cours des séances, en vous rappelant de tout ça, parce que vous allez foncer sur votre ordi pour regarder tout ça, bien sûr. En regardant tout ça, petit à petit, vous allez avoir des couches de vernis successives qui vont se mettre en place, qui vont permettre d'avoir ce regard sur le XVIIe siècle, et puis tu vois, c'est le but de ces séances. Là, aujourd'hui, on a commencé à défricher. Bien, et bien bravo. Vous avez été superbe, comme d'habitude. Vous avez tout trouvé.
Oui, enfin.
Moi, je ne sais plus, je ne sais même plus pourquoi je lui ai dit.